Alors bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, je suis Aurélie, je fais partie de la société coopérative Motra qui produit le spectacle. Et donc on m'a demandé de présenter ce temps de débat. Donc merci d'être resté. C'est une pièce qui évidemment est faite pour susciter la discussion. Donc merci d'être resté. Pour ces trois temps un peu organisés qu'on a prévus les samedis, on est très contente et content on est tous de la coopérative, mais aussi en contre moi, ben voilà, de recevoir aujourd'hui Vincent Cespedes. Merci d'être d'avoir accepté notre invitation. Donc Vincent Cespedes est philosophe. Il a écrit beaucoup d'essais, de textes sur l'amour, les femmes, l'identité. Et donc, voilà, on était curieuse et curieux d'avoir ses réactions sur la pièce, donc à chaud, puisque voilà, il la découvre comme vous aujourd'hui. Et bien sûr, bah, on aura aussi l'occasion d'échanger aussi avec Nixon. Tu nous expliques, Nixon, pourquoi tu as choisi de travailler ce texte. Voilà, mais du coup, on est dans un débat, la parole est libre. L'important, c'est que tout le monde s'exprime comme il en a envie, avec ses interrogations, ses questions, ses points de vue. Voilà, on est dans un débat où chacun peut dire ce qu'il pense. Et donc, je te laisse, Vincent.
Merci. Je trouve cette formule géniale. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais franchement, on devrait faire tout le temps ça au sortir de représentation, surtout quand la pièce vaut le coup et que ça fait réfléchir et qu'on a le temps de réfléchir. C'est une pièce qui est aérée, qui nous laisse l'occasion de méditer. On devrait faire ça systématiquement, quoi, prolonger le débat. J'ai envie de commencer, moi, par vous, quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, quels sont les mots que vous retenez, les expressions que vous retenez. Ça serait bien que j'entende un peu votre parole, votre ressenti. Pour ceux qui étaient là, il y en a qui viennent de nous rejoindre, mais ceux qui ont assisté à cette pièce, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Elle a l'avantage de nous obliger de sortir de nos identités, donc ça nous provoque, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon ça nous provoque. Qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en avez pensé? À mal.
Alors, en regardant la pièce, j'ai pensé à une vidéo que j'avais vue. C'était une vidéo d'Europe du Nord, où c'était deux hommes qui s'allongeaient sur un lit. Il y avait un moniteur. Ça simulait l'accouchement avec deux hommes. C'était donc, au fur et à mesure, ça s'accélérait et on les voyait crier. Et je me souviens d'avoir été choquée en voyant cette vidéo parce que c'est tellement habituel de voir des femmes crier quand elles accouchent. Que c'était le fait de voir des hommes crier, je me suis rendu compte, parce que je ne suis pas encore mère, la douleur que c'était en fait. Et c'est vrai que j'ai eu cette même sensation en voyant la pièce, cette violence qui était faite sur des hommes était vraiment extraordinaire, ce qui paraît presque banal, enfin c'est une prise de dire, mais c'est presque banal en fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé justement de voir cette violence posée sur quelque chose dont on n'a pas l'habitude pour justement sortir du banal et voir sa réalité. Donc voilà, j'ai fait un rapprochement avec cette vidéo sur l'accouchement et la douleur.
Super. Qui d'autre qui a des... J'ai entendu en sortant de la salle des personnes qui disaient « C'est fou comme on a intériorisé la violence des hommes et que ça déplace le projecteur. » Vous avez senti ça, oui, c'est vous.
Non, c'est vrai, c'est-à-dire que je trouve que la violence exercée par les femmes est absolument insoutenable.
Attention, hein, c'est surtout elle. Hein, là.
Et je me disais, si ça avait été un homme, c'est évident que je n'aurais pas du tout réagi comme ça, je n'aurais pas vu
ah, oui.
Comme ça.
Ah, c'est intéressant.
Tout simplement, c'est-à-dire de voir un homme violent, là, tellement ça le disait que oui, il est violent. Voilà, point barre. Parce que là, c'est du dégoût, c'est. Voilà, c'est vraiment terrible, quoi. C'est plus qu'absurde.
Mais je vous rassure, elle est comme ça dans la vraie vie. Hein.
Non, je sais pas. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui m'interpelle dans la pièce. C'est qu'en fait, l'histoire d'identité, c'est tellement profond que
très intéressant. Une autre réaction, pour commencer, c'est important, c'est des éclairages. Ça peut être aussi un ressenti spontané, hein. Pas forcément une longue analyse.
Moi,
hein.
Ouais. C'est marrant, mais la violence, effectivement,
oui, c'est toute religion confondue.
Ouais.
Et puis peut-être qu'on peut interroger Nixon, qui a décidé de réaliser cette pièce par un auteur kosovar. Donc pourquoi cette pièce? Pourquoi t'as flashé sur ce texte?
Alors, le texte, en fait, j'ai pas flashé sur le texte.
Ouais.
C'est un projet de longue date sur 4 pièces. On a déjà monté 2, et ça, c'est la troisième. Alors, le seul problème, au départ, en fait, ce texte, c'est vrai qu'il était beaucoup axé sur le l'auteur nous a présenté comme axé sur un petit peu le voile plutôt musulman, mais finalement, à la fin, la pièce, elle est sortie comme le voile de toutes les religions. Voilà, les trois religions monothéistes, mais y compris à l'intérieur de ces trois religions, même des branches différentes, orthodoxes, protestants, enfin voilà, ça s'élargit, même à l'intérieur de l'islam, il y a différents courants aussi. On le sent, en tout cas, je ne sais pas si vous avez senti ça, mais en tout cas, dans le texte, il y a ça, et aussi, moi, par mon vécu, par mon passé, l'ex-Yougoslavie, au Kosovo, pour ceux qui ne savent pas, on a une condensée de différentes religions très, très proches, et on a, donc du coup, j'ai vécu avec ça, donc il y a beaucoup, beaucoup de ça. Mais pour être tout à fait honnête, on avait très peur du texte. On a reçu le texte, on avait très très peur. La seule chose que je me suis dit, et du coup j'ai partagé avec mes amis les comédiens, c'est que j'ai dit, si on arrive à s'amuser, nous d'abord, et aussi à rendre des moments drôles, en tout cas légers, même si c'est pas drôle du tout, mais parfois, en tout cas, il y a des moments où on arrive à s'échapper, c'est que je pense qu'on ne peut pas questionner un peu plus. Mais si jamais on tombe dans une réalité violente, directe, à mon avis, c'est insupportable. Mais là, le fait que ce soit un peu plus renversé, enfin, en tout cas pour moi, pour nous, en tout cas, il me semble que le fait que le rôle se sont renversé, il y a quelque chose d'un peu pas sérieux. Tout en étant très sérieux, voilà, enfin, il me semble.
Mmh.
J'ai pas répondu.
C'est bien rendu, enfin, c'est ce que j'ai senti personnellement, un côté farce sombre, mais il y a de la farce dedans, au sens que la farce est une puissance critique qui permet de pointer les choses du monde sans tomber dans le pathos.
C'est ça l'idée, en tout cas. Mais,
ouais. Non, mais c'est bien. Oui.
Quand tu invoques le Dieu, qu'est-ce que tu dis exactement? J'ai pas tout, parce que j'ai l'impression que tu mets tous les saints possibles et tous les dieux possibles ensemble, c'est ça?
Il y a deux divinités qui sont invoquées, c'est Dieu Sopéa Atan et le prophète Ali Satela Salem. Voilà.
Alors, juste, je précise, dans les trois religions monothéistes, judaïsme, chrétien et islam, c'est le même texte. Sachez-le. Chez les en judaïsme, il n'y a pas on ne prononce pas ces noms. Chez les chrétiens, il y a d'autres noms. Et chez l'islam, en islam, il y a ça, en fait. Et du coup, ce qui est drôle, enfin, je ne sais pas si vous, en tout cas, moi, je trouve ça drôle, que ce soit dit par une prêtre chrétienne, enfin, catholique, en tout cas. Donc, c'est ça qui il me semble que c'est intéressant. Mais ce texte-là, il existe dans les trois religions, vous pouvez vérifier.
Bien sûr.
Enfin, le premier parti, hein, pas à la fin, la confession, non. Mais je me suis dit, dans les confessions, pour ceux qui ont voir les curés, ça se passe un peu plus.
partager avec vous ma lecture de cette pièce et ensuite on discute. J'ai un point de vue sur cette pièce que j'avais lu avant de voir. On voit bien qu'il y a une scène inaugurale qui est magnifique. On a l'impression d'avoir un mur entier d'hommes voilés. On n'en a que quatre, mais c'est très bien rendu au niveau de la lumière. Un mur, ça rigole, ça évoque toutes les émotions, mais le voile, du coup, qui laisse transparaître ces émotions, est un voile qui les catalyse, qui les enferme dans les corps. Il y a vraiment un travail sur le corps que j'ai trouvé prodigieux dans cette mise en scène. C'est corporel, ça déborde, les yeux, je ne parle même pas de tes yeux à toi, qui me glaceront le sang pendant des nuits et des nuits, mais les yeux qui sont là, la peau qui est là, quand ça se vide, il y a des pornographiques, c'est juste un torse nu, mais on a vraiment l'impression d'assister à cette transgression du tabou, et du coup on dit non, quand même pas, non, voilà, alors c'est juste. Et puis il y a tout un travail de la posture que j'ai vraiment adoré, on sent les corps qui se bougent, on voit qu'à travers ce voile, il y a une camisole mentale. Qui est très très bien magnifié, se tenir droit, ouvrir les yeux, il y a même cette litanie, cette répétition des mots qui vient, mais ça c'est ce que fait Nino, c'est cette répétition simple des mots qui reviennent, qui interrogent, qui pressent et qui oppressent, on passe de la pression à l'oppression et c'est un jeu de va-et-vient entre pression, un peu comme on peut trouver aujourd'hui dans le harcèlement de rue, où les femmes doivent se mettre en combinaison parfois pour traverser et doivent savoir si leur jupe est trop courte. En plus, avec les temps qui sont beaux en ce moment, c'est vraiment la question de notamment des jeunes. Est-ce que ma jupe est assez longue pour, est-ce que je vais me faire embêter? Alors, c'est pas se faire violer sur la place publique, mais c'est ce harcèlement continuel dont on sait que les indicateurs, en tout cas en termes d'études sociologiques, c'est catastrophique. Et donc, cette pression qui devient oppression, je trouve que c'est très bien rendu. Et c'est pour moi un angle nouveau, un angle féministe. Je suis vraiment féministe et je revendique le féminisme comme un combat des hommes. On voit vraiment que c'est là où les choses se jouent. C'est-à-dire que la pression, elle est sociale, elle est inorganisée. C'est pas étatique, c'est même pas religieux, la pression. L'oppression est religieuse, mais la pression, c'est dans les comportements simples. On a quand même deux viols absolument... bien mis en scène et oui, on se dit effectivement des viols qui vont comme allant de soi, des viols qui sont des viols de divertissement. Les viols, c'est quand même oui, des viols de divertissement, ça rigole. Un viol où on se moque, on méprise, on humilie. Alors les viols, faut savoir qu'on règle la question, c'est vraiment le paroxysme de la discrimination et de la phallocratie. 4% des hommes sont violés, donc les viols, c'est 96%, c'est un problème avec des femmes qui sont victimes. Je parle même pas des agressions sexuelles, le chiffre il est très simple, hein. C'est une femme sur sept au cours de sa vie qui est confrontée à une agression physique ou sexuelle en fonction donc de son genre. Donc on est vraiment, et ce sont des violences qui sont tabous, et ça c'est aussi très bien rendu dans la pièce. On sait que c'est que seulement 14% des femmes qui décident de porter plainte, par exemple dans les violences conjugales, 14%, le reste c'est tabou, c'est des violences qu'on n'ose pas mettre sur la place publique, violences aussi indexées sur des pratiques pseudo-religieuses comme l'excision. 60 000 femmes en France cette année vivent l'excision et donc c'est un véritable cauchemar aseptisé et dans l'entre-deux. Et c'est très bien rendu dans cette pièce parce qu'on ne sait plus où on se situe. D'abord, il n'y a pas de décor. Ensuite, on ne sait pas si on est dans la rue, si on est dans la ville, si on est dans la maison. Et tout ça, ça change. Et là, on trouve ce parti pris de la compagnie libre d'esprit, de ne pas avoir de décor. Et bien là, je trouve qu'il atteint sa plénitude artistique parce que justement, du coup, l'intériorité devient l'extériorité. On a une sorte d'enfer carcéral qui se met en place et qui touche toutes les parcelles de l'existence. Donc on est dans la maison, dans les huis clos, on est dans le mariage, donc on imagine sur une place, on est dehors, on est dedans, voilà. Le dehors et le dedans se mélangent, je trouve ça vraiment intéressant. Alors il y a trois questions qui sont traitées, pour moi, hein, c'est ma lecture, hein. Trois questions qui sont traitées et très bien traitées dans cette pièce, et après on va voir un peu vos réactions. La première question, évidemment, c'est la question de l'institutionnalisation des différences de genre et de la discrimination. C'est institutionnalisé. Il y a la religion qui est là, il y a les textes sacrés qui sont là. On a des institutions créées par les hommes. qui perdure indépendamment de toute tentative velléitaire la plupart du temps de libération. Et d'ailleurs, il n'y a pas de véritable libération. À un moment, tu décides, Frédéric, de danser, enfin ton personnage, de continuer de danser, mais tu ne vas pas au bout, tu ne vas pas non plus faire la révolution. Donc on sent que c'est à chaque fois dans un univers où on est oppressé, où la pression devient oppression, qu'on doit saisir les petits moments infimes, les petits détails, pour pouvoir réinvestir le champ de la liberté. Et évidemment, ça ne dure pas longtemps. Et dès que l'autorité arrive, effectivement, ces moments se volatilisent. Et c'est intéressant parce qu'on voit que le foot, qui est le point de départ, qui est accoucher du foot, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis posé cette question. Accoucher du foot, c'est vraiment un accouchement forceps. Je trouve ça mais magistral, c'est vraiment des images. Il y a beaucoup de tableaux, ça marche par tableaux, qui sont des tableaux d'anthologie. Quand les hommes forment un sandwich et qui basculent, enfin, c'est extraordinaire cette scène de balancier. Et le coup du foot, et tu accouches et je te tape dans le ventre pour accélérer l'accouchement, ça je l'ai jamais vu et je trouve ça super. C'est Gramsci qui dit une phrase intéressante, il dit voilà ce qu'on a fait de la liberté aujourd'hui, un ballon de foot pour jouer au foot. Être libre, c'est pouvoir jouer au foot. Voilà, il critique bien sûr cette société qui nous vend une pseudo-liberté et qui est symbolisée dans le ballon de foot. Il écrit ça dans ses cahiers de prison, donc la pression et l'oppression, il l'a traversé. Et Gramsci explique ça. Donc, le foot, c'est quoi? Le ballon de foot, c'est quoi? Le ballon de foot, c'est une quotidienneté ludique. Le ballon de foot, on est là, on joue entre amis. Voilà. C'est ludique, c'est l'espace. On ne joue pas au foot chez soi, donc c'est forcément à l'extérieur. Et on investit, voilà, exactement, on pourrait faire une partie de foot là. On investit la ville, on investit la rue, et on décide collégialement, tous ensemble, spontanément, de s'amuser. S'amuser dans un espace ouvert. Et ça, que ça soit tabou dès le début de la pièce, c'est un symbole qui va jusqu'au harcèlement de rue, qui va jusqu'au, je dirais, à l'emprise qu'ont les hommes sur la rue, sur la ville, et y compris, on n'a pas besoin d'aller dans des pays machistes ou un peu plus du côté de la Méditerranée. On l'a, encore une fois, à Paris aujourd'hui. La rue, à 2h du matin, à 3h du matin, dans certains quartiers, c'est compliqué. La rue à investir de façon ludique et s'amuser, c'est compliqué. La véritable question qui est soulevée, c'est pourquoi ça pose problème de prendre le parti pris égalitaire? Pourquoi, en 2017, ça pose encore problème d'avoir cette fameuse marche, la Women's March, vous l'avez vu, ces gens qui ont manifesté contre l'élection de Trump, et c'est le renouveau, ça signe le renouveau d'un féminisme américain très intéressant qu'il faut suivre de près en termes de débat intellectuel et d'activisme. Il y a quelque chose de nouveau qui a eu lieu, on l'aura en France dans 20 ans, on a toujours 20 ans de retard, mais on l'aura en France dans 10 ans, puis peut-être avec des pièces comme ça dans 5 ans, merci Nino. Mais il y a un renouveau là, de la question. De plus en plus d'articles sortent, tiens, les hommes peuvent être féministes, tiens, être féministe, c'est pas choisir le camp des femmes qui veulent renverser, c'est simplement vouloir l'égalité des droits, et c'est un combat légitime, et un combat noble, et un combat qui arrange les hommes aussi, en fait, ça devrait arranger les hommes. Pourquoi c'est encore si verrouillé comme ça? Donc, cette question de la pression, de l'oppression et de l'espace public qui devient interdit, prohibé et tabou, c'est une question qui, à mon avis, est très très bien traitée. J'ai très envie de voir cette pièce jouée dans des classes de gamins de 13 ans. Voilà, j'ai vraiment envie de voir ça, que ce soit dans des lycées de Bourges du 16e, ou que ça, parce qu'il y a aussi plein de choses à voir de ce côté-là, évidemment. Et que ça soit du côté aussi de banlieues plus populaires avec des stéréotypes. En fait, c'est quoi être féministe et être un homme féministe? C'est d'abord réserver une éducation égalitaire à ses enfants. C'est d'abord pouvoir prendre le parti pris, franc et massif du côté de l'égalité des droits, l'égalité des chances, l'égalité des traitements. Ce combat est noble et que ça pose encore problème aujourd'hui, c'est vraiment pour moi la racine du truc. Deuxième chose importante de cette pièce selon ma lecture, il y a vraiment cette idée de l'autorité, parce qu'à un moment on a envie de dire pourquoi tu lui fous pas une grande mandale dans sa tête, c'est la question qu'on se pose, d'autant plus que ce sont des hommes qui sont voilés, donc on imagine une supériorité en termes musculaires un tout petit peu, voilà, un peu plus élevé. Surtout quand ils sont quatre et qu'il n'y en a qu'une. Bon, elle a un couteau, c'est vrai, le couteau est intéressant. Symbole phallique, etc. Mais bon, on peut imaginer une révolution. Et pourquoi cette révolution ne se pose même pas? La seule révolution, c'est de danser quand c'est interdit de danser. intériorisation des normes. On a affaire à des normes qui sont tellement intériorisées depuis le biberon, en tout cas depuis je sais pas, quel âge il a ton fils ?
10 ans.
10 ans, voilà, depuis l'âge de 10 ans, puisque c'est là où le voile se met, super carrière, pour le dire, le voile se met sur un enfant de 10 ans, donc ça veut dire, voilà, au tout début de la préadolescence, déjà, ça y est, on arrête de jouer, tu vas devenir beau, tu vas devenir objet de désir, donc attention, la tentation c'est de ton fait, c'est pas les femmes qui sont tentées, c'est les hommes qui sont tentants, et on a ce paradoxe énorme. Et donc cette intériorisation des normes, bah, on le voit, et là ça reste, hein, c'est une pièce qui hante, qui va nous hanter, ce soir on va en rêver, parce que ces tableaux immobiles de « je dois pas bouger, je dois faire comme on m'a dit, et pourquoi tu ne fais pas comme on a dit, et pourquoi le magnifique face à face, ta liberté c'est la mienne, moi je suis libre », tout ce débat à la Tariq Ramadan, finalement c'est presque être féministe que de porter le voile, alors il inverse tellement tout, que du coup on se dit « ouais je porte le voile, je suis féministe, machin », et cet enfermement communautariste de la question, c'est-à-dire, les Noirs, il n'y a que les Noirs qui peuvent lutter contre le racisme anti-noir. On est blanc, mais on n'a pas le droit de se mêler de la lutte anti-raciste. C'est une schizophrénie française, mais elle est là. C'est le travail de ces intellectuels, pseudo-intellectuels, qui consiste à enfermer les débats humanistes dans de la communauté. Moi, par exemple, quand j'ai sorti L'homme expliqué aux femmes, en 2010, je me suis fait défoncer la tête par des féministes, alors que je parlais d'humanisme, etc., qui disaient « vous n'avez pas le droit de parler ». Vous êtes un homme, vous n'avez pas le droit. Vous faites partie du camp des oppresseurs, que vous le vouliez ou non. Alors, pour moi, être un homme, c'est juste pour, comme disait collègue, pouvoir faire pipi sur un mur. Hein. Le seul truc différent, c'est... Et donc, qui, en fait, nous empêche... mon livre, en 2004, Marabouté, où je défends le panafricanisme, blanc, hein, mais panafricanisme, et je lutte, enfin, je montre que ça peut être une lutte antiraciste et anti-négrophobie, il y a eu des papiers qui me disaient « il n'a pas le droit de parler, il fait partie de ceux qui... font la France-Afrique, etc. » Et donc cet enfermement des luttes humanistes dans le communautarisme, c'est le pire. Mais vous savez, à Oser Féminisme, ils disent ça. Ils disent être un homme et féministe, c'est pas possible. La seule chose que peut faire un homme en féministe, c'est de passer le micro à une femme qui, elle, a subi l'oppression, donc peut témoigner, peut en parler. Et donc ça, c'est insidieux. On l'a dans les débats. C'est extrêmement insidieux. D'ailleurs, le 8 mai, c'est quoi la journée de la femme ? Le 8 mars, la journée des droits de la femme, c'est juste une parodie. Tout d'un coup, il n'y a que des femmes sur les plateaux. Les femmes expertes, je vous rappelle, c'est 16% à la télévision. France Télévisions, dès qu'il y a des choses à dire sérieuses sur la société, il n'y a que 16% de femmes qui sont invitées. Les femmes qui font la une des journaux, c'est 21,5%. Les unes des journaux, hein, les femmes prestigieuses, une des journaux. Dès que dans le contenu d'un... Non, excusez-moi. Les unes, c'est 14,5%. Les unes, vous voyez des femmes en une. Et à l'intérieur des journaux, quand on oui, c'est à peu près pareil. Et quand on interroge des gens pour avoir un avis dans les journaux, dans les articles, des choses sérieuses, c'est 21% de femmes. Donc, la parole... Sans parler, évidemment, des prix littéraires. Vous savez très bien que c'est les hommes qui sont largement en tête de tous les prix littéraires du monde. Sans parler de l'art contemporain, où il n'y a que 8% des œuvres faites par des femmes qui sont exposées dans les musées. C'est-à-dire, dès qu'on parle de art, c'est un homme. Dès qu'on dit art. Sans parler du Festival de Cannes, qui, en 70 éditions, n'a donné la Palme d'Or qu'à une seule réalisatrice, Jeanne Campion. Donc, donc ça, c'est très large. Et c'est comme ça qu'on fabrique la machine à intérioriser l'autorité masculine. Dès qu'il faut parler de la société, dès qu'il faut parler des émotions, du romantisme et du couple, ça, les femmes, et surtout des enfants. Dès qu'on parle des enfants, il faut des femmes sur le plateau, hein, l'heure des enfants, etc. Mais on a tellement intériorisé la chose qu'un mec féministe qui se dit « Moi, je dois, excusez-moi les gars, j'arrête la réunion à 17h parce que je dois chercher mon bout de chou à la crèche. » Là, cette pièce pose cette question-là, directement, et de façon fantasmatique, donc de façon entente, et c'est vachement bien. Ça, on l'a pas encore aujourd'hui. Et donc, il y a une intériorisation des normes qui est très bien rendue parce qu'il y a un jeu dans cette pièce qui est un jeu de symboles. On est sur le symbole, en fait, on vit une expérience. On est traversé, nous, une expérience d'attente, une expérience de réflexion, de parodie. Donc voilà. Et troisième point, après l'intériorisation des normes, il y a le rapport au désir et à la sexualité qui est là, qui est présent. Et c'est vraiment la joie. Alors, on sait bien ce qui fait le désir, ce qui construit le désir phallocrate masculin. De la femme est une chose à mon service, au service du plaisir. On pourrait parler de la pornographie en accès libre qui déverse évidemment la seule éducation sexuelle. Il y a quelques bonnes sœurs qui passent en troisième pendant une heure nous faire un petit topo, mais sinon c'est la, évidemment la pornographie en ligne. À l'âge de 11 ans, la moitié des enfants ont déjà regardé ça, et évidemment avec toujours le même code. Je suis pas du tout contre la pornographie si elle est créative, mais c'est toujours là, là on parle vraiment d'une certaine pornographie qui dit finalement la femme est un objet au service du plaisir de l'homme. Et ça, quand on a 11 ans, 12 ans, 15 ans, je suis la génération Canal+, je peux vous dire que ça marche. On met 10 ans à sortir de la pornographie, de la pornographisation de ses instincts. C'est extrêmement compliqué. On a des jeunes hommes qui ne peuvent pas même avoir un acte amoureux sexuel sans avoir d'image pornographique dans la tête. Donc on est vraiment pris en tutelle par rapport à cette imagerie-là. Mais indépendamment de ça, on a la fabrique des rôles par le cinéma. Dans les films, il est toujours question des hommes. Et quand des femmes parlent entre elles, à 75%, c'est pour parler d'un mec. C'est pas pour, du tout pour parler de leurs problèmes de femmes. Tout est concentré par les hommes, une sorte de focus, de polarisation sur les problèmes des hommes qui sont nettement importants. Et donc, la sexualité, le fait qu'il y ait deux viols différents, de générations différentes, mais qui ont toujours, grosso modo, le même modus operandi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La phrase que l'autorité féminine de la pièce répète, c'est-à-dire je me pose comme victime. Donc le bourreau se pose comme victime, c'est juste la fable du loup et de l'agneau, on n'en sort pas. L'agneau, je dois le manger, je vais commettre l'injustice, puisqu'il s'agit évidemment d'êtres humains dans La Fontaine, on le sait bien, je vais commettre l'injustice, mais je dois me justifier. Et je dois donc faire passer la victime pour le bourreau. Si ce n'est pas toi, c'est donc tes frères. De toute façon, tu appartiens au camp qui me terrorise, qui m'exploite, et donc je me venge, et je suis légitime dans ma vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la sexualité mise dans cette pièce correspond à ce schéma qui est en fait un schéma politique, et pas du tout désirant. On n'est pas dans du Freud, là. On n'est pas dans du désir, dans du romantisme, dans une narration de son désir. On est dans de la politique, c'est un viol politique qui a lieu deux fois de suite. Le rôle de l'alcool, alors je ne sais pas, si est-ce que c'est dans la pièce l'alcool ou c'est un parti pris de mise en scène? C'est dans la pièce. Bon. Bah, le rôle de l'alcool est vraiment intéressant. Le rôle de l'alcool, c'est là où on va pouvoir, en tant que femme, c'est-à-dire d'autorité, on va pouvoir s'arroger des libertés sur des normes. Et l'autorité dira rien. Va-t'en, je ne veux plus te voir, c'est tout. Et en fait, c'est la victime du viol qui va être le bourreau, le tentateur, etc. Que la sexualité soit centrale, c'est évidemment central. Le levier principal de cette oppression, à mon avis, qui est là, qui est réel, tient en deux choses. Dans la décrédibilisation du discours féminin, mais ça à toutes les sauces, en entreprise, partout, décrédibilisation du discours. On sait que par exemple, de ceux qui sortent de Sciences Po, j'ai un chiffre génial sur les diplômés, je crois que c'est 28% de salaire en moins. C'est-à-dire les cadres qui sortent de Sciences Po, hommes et femmes, c'est 28%. La différence de salaire, c'est 24%. C'est anticonstitutionnel. Non, la Constitution dit travail égal, salaire égal. Mais on sait bien que ça se maintient. Et tout ça, ça participe forcément d'une érotique. C'est pas simplement du politique, etc. C'est érotique. D'ailleurs, on le voit dans les cris de jouissance de « je te domine, je te viole et je jouis et je m'assume dans ma jouissance ». C'est érotique consiste à dire, c'est pas simplement un truc sadique, je t'humilie en plus j'en jouis. C'est en te violant, en t'humiliant, je renforce tout un système que je dois bien appeler un communautarisme masculin pour aujourd'hui et féminin dans la pièce, un communautarisme, c'est-à-dire une alliance politique où à choix égal on préfère l'homme, à valeur égale on préfère l'homme, à diplôme égal on préfère l'homme, à autorité égale on préfère l'homme, à compétence égale on préfère l'homme, et ça c'est un communautarisme auquel tous les hommes, je parle d'aujourd'hui pas de la pièce, tous les hommes participent de façon tacite. Et c'est assez bien vu, cette participation tacite, la fille d'ailleurs de l'autorité profite complètement de ce système. Bon, elle est aussi autoritaire en devenir. On aurait aimé dans la pièce une petite fille. On aurait aimé qu'une petite fille... Comment on bourre le crâne de la petite fille pour en faire justement l'autorité suprême? Mais on l'imagine bien. Voilà les remarques. Donc, cette pièce nous interroge, et après on discute, cette pièce nous interroge sur notre intériorisation des normes, dominant, dominé, tout ça va de soi. Cette pièce nous interroge sur la monstruosité d'un système qui exclut 50% de l'humanité à des choses subalternes. Et à qui profite ce crime? À qui profite ce crime? Aux femmes dans la pièce aussi. Moi j'aime bien mon rôle, moi j'aime bien ma liberté, moi j'aime bien, non, moi ça va, ma vie me va bien, qu'est-ce que t'es, qui t'es... Donc cette complaisance de l'esclave, parce que la pièce s'agit vraiment d'esclave, cette complaisance de l'esclave dans son esclavage, qu'on a évidemment dû lui intérioriser quelque part, et puis cette intériorisation de la part des dominants, et puis cette pièce interroge sur la ce que serait un monde égalitaire. On imagine évidemment que la libération de ces hommes soumis nourrirait en richesse culturelle, artistique, sensuelle, urbaine, mais aussi économique, j'en suis certain. L'OCDE en 2008 a prouvé que la réduction de la pauvreté augmente quand il y a des femmes qui sont libres. On le sait très bien que c'est indexé sur l'économie. Et donc, un monde égalitaire, c'est un monde profitable pour tous, les femmes, mais aussi les hommes, ou pour le dire dans la pièce, les hommes, mais aussi les femmes. Voilà. Partageons ensemble, si vous voulez bien. Voilà le point de vue sur la pièce. Est-ce que ça suscite des remarques? Est-ce que... Voilà. Allez.
Moi, j'ai eu la chance de travailler à l'intérieur d'une famille saoudienne.
Vous avez travaillé à l'intérieur d'une famille?
À l'intérieur d'une famille, parce que... Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais à l'extérieur.
Ouais, en tant que quoi?
On peut pas. J'étais professeur de français et entre parenthèses, dame de compagnie. Voilà. Et puis plein de choses. Parce qu'au fond, quand on rentre, il y a beaucoup de choses à faire. Mais et longtemps, je me suis posé la question pourquoi je ne pouvais pas rester dans ce système-là. J'étais obligée de partir parce que j'allais être broyée. Comme vous le dites, j'allais rentrer dans l'esclavage, comme les autres. Et longtemps, je me suis posé la question comment ces hommes avaient réussi. Et au fond, plusieurs années après, j'ai compris que ce n'était pas les hommes, c'était les femmes. À l'intérieur du système, c'est fou parce que ce sont les femmes qui organisent tout pour que celle qui est libre encore, ou celle qui rentre en esclavage. Et ça a été j'étais complètement... Et je me suis dit, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis sortie, je ne vous raconte pas tout, je suis sortie et des femmes musulmanes à qui j'ai raconté mon histoire m'ont dit, c'est presque incroyable de pouvoir sortir de ce système-là.
On sait comment ça se passe, il y a plein d'études là-dessus. Ouais. On sait que quand vous voulez avoir des esclaves, vous devez faire que les esclaves éduquent les esclaves. Parce que dans les plantations aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, en 1830, c'était la même chose. Ce qui formait les futurs esclaves, c'était les parents d'esclaves. Donc on délègue. Voilà. Mais je vous garantis que ceux qui tranchent les têtes en place publique, ce sont des hommes. Et que ce système est un système extrêmement masculin. Mais c'est vrai qu'après, comme il fonctionne tout seul, on peut se permettre de déléguer. Et c'est vrai que l'excision, par exemple, les mères peuvent très bien, alors qu'elles ont subi ça dans leur chair, peuvent dire, ma fille, voilà. Il y a un phénomène de reproduction. Parce que quelqu'un qui désobéit à la règle, et c'est très bien montré dans la pièce, est quelqu'un qui me remet moi en question en tant que soumis. Et donc, du coup, je ne supporte pas ça. Qu'il s'arrange une liberté de danser, par exemple, alors que moi j'ai renoncé à cette liberté, c'est insupportable. D'où la prise de bec, ou la prise de voile, je sais pas comment faut l'appeler, en disant tu n'as pas le droit de danser parce que en dansant tu me montres que moi j'ai renoncé à cette capacité naturelle euphorique de danser. Pour ce qui est du foot, par exemple, pour revenir au football, c'est super intéressant. La pièce parle du foot et c'est très intéressant. Le football professionnel, les femmes, 3000 euros. Les hommes, 12 000 euros. Même sport, c'est le même effort, le même entraînement, pareil. Le football en représentation télévisuelle, c'est-à-dire les spectacles de football professionnel. 15% de sport, c'est pas le foot, c'est le sport féminin, c'est 15% d'antenne. C'est-à-dire, dès que vous voyez des sportifs et qu'on fait waouh parce qu'il s'agit de héros, de champions, d'exploits, c'est 15% de femmes seulement. La plupart, ce sont des hommes. Et pour pousser la réflexion sur le foot, par exemple, pourquoi on n'autoriserait pas des équipes mixtes? Alors on dit, ah oui, mais les femmes courent moins vite que les hommes. C'est pas... Elles auraient leur utilité. Il faudrait presque s'arranger. Je sais que c'est très choquant, je l'ai dit dans plusieurs grands médias. La plupart disent, mais regardez, c'est tout simple. Pourquoi on fait encore du tennis? Bah oui, les femmes perdraient peut-être plus que les hommes. Et alors? Et alors, c'est pas grave. On pourrait très bien rompre, on l'a fait au jeu d'échecs. Au jeu d'échecs, c'est très intéressant. C'est très physique le jeu d'échecs, ne croyez pas que c'est pas physique, hein. Ça demande vraiment une énergie physique suprême. Une fille de 16 ans, en plus elle était jeune, Judith Poglar, hongroise, le père a voulu montrer au monde échiquéen que les femmes étaient capables de battre des hommes, des champions au plus haut niveau. Et donc il a dressé ses filles, trois filles qui sont devenues trois championnes de jeu d'échecs. Et Judith était cantonnée au monde échiquéen, évidemment des femmes, parce que c'était séparé, il y avait championne féminine et championne masculine. Jusqu'à très peu de temps. Et à un moment, elle est devenue championne de toute de sa catégorie féminine. Elle en avait marre. Elle dit maintenant, je veux les mecs, je veux bouffer du mec. Et elle a dit à Kasparov, qui était le champion, elle a dit coucou, je suis là, j'ai 16 ans, je vais t'éclater la tête. Kasparov a dit oui, c'est un singe savant. Son père en a fait, c'est un singe savant. Alors son père l'a endoctriné, etc. Et elle est tombée sur Kasparov. Elle avait une technique géniale. Elle avait des cheveux longs. Et pour énerver son adversaire masculin, quand elle a commencé la compétition mixte, elle jouait avec ses cheveux tout le temps. Alors, imaginez les mecs un peu frustrés, hein, le monde échec, c'est pas un monde épanoui au niveau sexuel. Elle était là, jouait avec ses cheveux, et les mecs, ils étaient là à calculer tour en E8, fluent, arrête-toi. Et elle a évidemment gagné contre Kasparov, et là, il a dû ravaler ses mots en disant, oui, effectivement, elle a une certaine forme de génie, etc. Vous voyez comment c'est ? Le père décide de faire la nique au système en disant, je vais créer... Alors lui, c'était un peu... Je vais éduquer mes filles pour qu'elles éclatent le monde. Et ça marche, et ça fonctionne. Vénus Williams et les sœurs Williams, c'est pareil, exactement la même chose. Le père dit, non seulement vous êtes noirs et que le tennis, c'est pas tellement fait pour les noirs, mais en plus, mes filles, vous allez tout exploser et vous allez faire ça au nom de la lutte antiraciste. À chaque fois que vous allez taper dans les balles, ça vaudra un tract, ça vaudra un signe de déclaration de guerre contre le racisme noir américain. Et donc... vraiment, pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, par exemple, il y a vraiment des mesures à prendre, qu'ils soient au niveau politique, il y a peut-être des partenariats à ne pas nouer, mais c'est très intéressant d'observer que récemment, une grande sommité dans le monde de l'ouléma, dans le monde musulman, venant d'Arabie Saoudite et financée par un prince saoudien, c'est dans le courrier international de cette semaine, a dit que dans les pays où le voile n'était pas tellement commun, il ne faut pas mettre le voile, lui, hein, Arabie Saoudite, tout ça, parce que dans le Coran, il est très stipulé qu'on doit se conformer aux lois du pays dans lequel on est, et donc conformément à ça, il ne faut pas, et ça serait ridicule. Donc évidemment, le but du jeu, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut entre nous, en Arabie Saoudite, bien sûr, c'est pas une pure vue d'esprit humaniste. Mais il faut bien comprendre que cette oppression, et c'est très bien de le souligner, elle est aussi organisée par les femmes dans notre monde, ou par les hommes eux-mêmes, on l'a bien vu dans la pièce. C'est aussi organisé par ceux qui consentent à ne plus se battre pour leur liberté. Et c'est le verrou suprême, que des antiféministes peuvent être des femmes, voilà, tout simplement. Et donc, un des combats à mener, en tout cas c'est le mien, c'est de remettre le mot féminisme au goût du jour et qu'il soit unisexe, ce mot. Et un autre combat à mener, en dehors de ça, c'est de montrer que les actions quotidiennes, mettre un t-shirt féministe par exemple, une toute petite marque française qui s'appelle Ypsilon a sorti un t-shirt unisexe avec Girl Power. J'ai hâte de voir des hommes porter un t-shirt Girl Power, parce que ça suscite le débat, l'importance des t-shirts, d'ailleurs vous avez des très beaux t-shirts, hein, là. L'importance des t-shirts, c'est que c'est quoi ce machin, ça suscite le débat dans la rue, dans la société. Je crois même faire une révolution bientôt de la philosophie dans la rue grâce aux t-shirts. Je crois vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses avec des t-shirts, voilà. Et Girl Power, affiché par un mec, s'il est barbu, viril, avec des gros bras, ça sera encore mieux. Girl Power, mais qu'est-ce que tu fais? C'est tout bête, mais c'est une action qui vise à toucher la superstructure, c'est-à-dire la structure symbolique d'une dictature ou d'une domination ou de la phallocratie. Et donc voilà, le grand problème, c'est que l'éducation, le parent n'est pas seul maître de l'éducation qu'il donne à son enfant. Il a beau donner une éducation égalitaire à son petit garçon, la société, l'école, fait un travail de cochon, et l'école va évidemment lui mettre dans la tête des préjugés, y compris par des professeurs, y compris par des matières, y compris, on sait très bien par exemple que naturellement, sans même être sexiste, un professeur mathématique ou science va plus demander la parole aux garçons qu'aux petites filles. Et donc, l'école comme machine à rêve de se projeter vers le futur doit aussi jouer son rôle féministe à ce niveau-là. Des acteurs américains se sont récemment déclarés, je pense à Will Smith, féministe. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et ils se disent féministe. Will Smith, c'est génial, son argument. Il dit, on l'interrogeait sur la coiffure de Willow, sa fille, son ado. Et il dit, moi je m'en mêle pas de sa coiffure, elle fait ce qu'elle veut. Parce que si je commence à m'en mêler de sa coiffure, plus tard, quand elle s'aventurera dans le monde, elle demandera à un homme de s'occuper de sa coiffure. Et donc quelque part, il sait qu'en dehors du père, il incarne le rôle du masculin. Et qu'une certaine justement liberté octroyée à l'adolescente qui construit sa personnalité était absolument essentielle. Et donc on a tous des micro-responsabilités à ce niveau-là. Un exemple tout simple d'engagement féministe qu'on peut avoir au quotidien, moi, outre le fait que dans mes livres, je cherche à citer autant d'auteurs masculins que féminins, systématiquement, c'est un effort. Parce que, surtout en philosophie, vous savez, à part les deux Simone et Hannah Arendt, il n'y a plus personne, hein, je veux dire. Donc, il faut chercher dans les romancières, dans celles qui ne sont pas estampillées philosophes. Et c'est un vrai combat. Et donc, je lis beaucoup plus d'auteurs, justement, de femmes, pour cette raison-là. C'est un vrai combat. Mais un truc tout bête, dans le métro, des jeunes filles d'un quartier chic, une femme qui est noire de peau, et à un moment, elle dit, vous pouvez pas vous pousser, elle veut entrer. Et ces jeunes filles adolescentes avec des écouteurs et tout ça, elles font, quoi, d'où tu me parles comme ça, toi? Elles rembarrent cette pauvre femme. Silence morbide. Et ricanement de qui? Pas des hommes, ricanement d'autres filles, d'autres femmes. Oh, c'est marrant, la jeunesse qui parle comme mal comme ça. Et là, j'ai pris la parole et je leur ai fait un discours. Je leur ai pompé l'air. J'ai perdu l'électrice, hein, là, c'est sûr. Mais quoi? Mais je vous parle pas à vous, monsieur, machin, machin. Et je leur ai fait la morale, mais la morale en disant, oui, mais nous, on est tous fatigués. Enfin, une morale qui consiste à dire, regarde, tu parles comme un homme misogyne pourrait parler à une femme. Je vais pas dire raciste, je vais pas entrer dans le terrain du racisme, mais juste de la misogynie. Je crois vraiment qu'il y a une conscience politique à donner à tous les citoyens, à se donner à soi-même, et que cette pièce peut vraiment faire avancer le débat. Je ne sais pas quel est le destin de la pièce, tu peux nous raconter si à Avignon vous allez la jouer ou quoi, mais je crois vraiment que c'est une pièce qui nécessite vraiment un débat, parce qu'elle apporte un nouvel angle à la question, une nouvelle expérience de la part des spectateurs, et donc elle fait avancer le combat féministe, à mon avis. C'est quoi l'avenir de cette pièce?
L'avenir, pour l'instant,
c'est déjà d'amener du monde jusqu'au quoi?
Jusqu'au 11 juin.
Bah voilà, on va faire notre boulot.
Mais sûrement l'année prochaine. Mais là, cette année, non, on n'y va pas à Avignon avec, parce que on avait très très peur. Comme on a souvent peur d'ailleurs de toutes nos créations, mais celle-ci encore plus.
Pourquoi?
Parce que c'est un sujet sensible, la religion d'abord, c'est un sujet sensible, et après toutes ces questions que tu viens d'évoquer, d'ailleurs que comment tu vas poser tout d'ailleurs, on va réfléchir. Mais c'est bien,
c'est plutôt le côté religion qui fait peur.
Oui.
L'engagement, il est plus là.
En fait, côté religion, pourquoi côté religion? Parce que, en fait, pour moi, il me semble que nous avons un problème majeur que tu n'as pas été sur ce terrain-là, mais moi, je vais essayer d'y aller quand même un petit peu. C'est que nous faisons. Enfin, il y a un amalgame, surtout sur la religion. L'islam. En France, il y a une confusion majeure qui est faite entre ce qui est la religion et l'intégrisme. Ce qui est étrange parce que côté chrétien, on a identifié ce qui est précis, hein, c'est et aussi côté peut-être juif aussi, c'est bien identifié. On le sait, quand on a en face de nous un antéchrist juif ou chrétien, on le sait. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réglé, ça existe encore. Mais dans la religion d'islam, il y a un mélange, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dû? Après, je ne veux pas.
Je vous donne la réponse, oui. C'est plutôt autocratie. C'est-à-dire que la religion de l'islam, c'est à la fois politique et religieuse.
Théocratie.
Une théocratie, voilà. Oui, excusez-moi. Oui. Donc c'est pas la même chose. Au fond, la religion chrétienne, au fond, elle on a réussi, mais elle est quand même séparée. Elle a eu
ça, c'est un combat qui n'était pas évident en 1905, oui. Tout ça, c'était vraiment. Bah, France, et l'islam en Turquie, c'est normalement laïque. Hein. c'est pas tous les pays qui ont l'islam qui sont en théocratie aussi.
Mais justement, c'est ça qui est intéressant par rapport à la pièce. Enfin, moi, j'ai vécu ça. C'est que
tu vas voir une pièce pensant que ça va être le manichéen, tu vois, le voile d'un côté et la liberté de l'autre. Mais en fin de compte, tu sors et c'est pas ça le problème. C'est un problème qui est au-dessus, c'est la domination homme-femme. Moi, j'ai vécu comme ça. C'est vrai que je comprends ton problème parce que quand tu vois rien que la fiche, tout ça, tu dis. Voilà, on va avoir droit des mêmes. J'ai pensé, hein, on va avoir droit des manifestations, et alors l'opposition, la violence. Puis en plus, c'est pas très clair non plus, justement, cette opposition dans la pièce. Tu vois, c'est pas, tout contre le voile, ou pour le voile, on sait pas. En fin de compte, c'est assez flou là-dessus. Hein. Non, moi je crois pas, justement. Je pense que ce qui émerge plus, c'est cette histoire d'autorité, de pouvoir.
Il n'y a pas de jouissance du voile. On voit personne s'amuser à dire.
Pas vraiment,
non, parce qu'il y en a une. Dans la vérité, il y en a une. C'est-à-dire que je porte le voile, je ne me fais plus emmerder.
Voilà.
Il y a ce truc-là. Je suis respectée, je suis dans le camp des.
Dans ce sens-là, je veux dire, c'est pas. Allez, on fout le voile à la coupe, c'est horrible. Non, il y a un moment, c'est quand même assez.
Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait plus de richesse que ça parce que justement, le représentant de la religion fait penser qu'il est chrétien, donc on pourrait aussi se ramener vers
le chrétien. Mais oui, il est chrétien, il est tout à la fois.
Il y avait aussi une oppression du voile. Enfin, je trouve qu'il y a plus de richesse que juste musulman ou pas. Enfin, moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça ouvrait le.
Mais moi, c'est exactement ce que j'ai reçu de la pièce, parce que, en tout cas, nous, c'est de cette manière-là qu'on a travaillé. Mais après. Chez les religions, on sait très bien que il y a quelque chose qui est irrationnel. Il n'y a pas de raison. Les gens qui croient, on a beau à chercher des raisons, ça n'existe pas. Ils sont croyants. Mais moi, ce qui m'embête un peu aujourd'hui, cette intelligentsia que tu parlais tout à l'heure en France. Qu'il y a un mélange en fait, il y a un amalgame qui est fait entre ce qui est la religion et ce qui est de l'intégrisme, notamment sur la religion d'islam. Je dis ça parce que c'est. Et du coup, en fait, moi j'avais un peu peur, je dis sincèrement, j'avais très peur jusqu'à qu'on a fait les premières représentations et on a vu que le public comprenait complètement autre chose. Et en tout cas, ils étaient dans le même milieu que nous, donc ce qui était bien. Parce que j'avais peur que. Voilà, on avait peur que ce qu'on a envie de travailler, c'était pas du tout ce qui. Parce que parfois, on peut se tromper, hein, on pense une chose et ce qui paraît sur scène, il y a autre chose. Donc, on avait peur par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que du coup, on s'est limité cette année. À finir ici à la cartophile de la présentation, mais sincèrement, on a envie que cette pièce-là se joue au plus longtemps possible parce que je pense que pour toutes les questions que tu as évoquées tout à l'heure, et aussi quand même, et aussi pour le. Moi, j'ai envie qu'on en parle un peu plus de ce mélange qui est fait entre l'intégrisme et la religion. Parce que pour le coup, c'est là qu'on est dans l'amalgame. Pour moi, c'est là qu'il y a un problème, c'est parce que tant qu'on n'a pas fait un travail, cette frontière nette, et je disais ça hier soir à des spectateurs en sortant, moi j'en vis, alors que j'ai vécu mais vraiment dans une famille comme ça, je le dis, hein, de religion chrétienne, mais j'ai vécu exactement dans cette ambiance-là, en tant que gamin. Alors, moi, et en même temps, ce qui est paradoxal, au Kosovo, aujourd'hui, on est sorti. Et j'aimerais bien ramener tous les Français en voyage au Kosovo pour voir ce que c'est de vivre l'islam en démocratie. Non, mais ça existe. Quand j'ai des femmes qui sont habillées comme ça, comme tout le monde, comme nous, et qui sont croyantes, et des hommes aussi qui sont habillés comme ça, tout le monde, et qui sont croyants aussi. Et ça n'empêche pas, en fait.
Oui, mais en France, il y avait ça aussi, il y a 20 ans.
Ça s'appelle l'islam traditionnel.
traditionnelle.
Ça s'appelle l'islam. Voilà, il n'y avait pas d'annonce.
Par le wahhabisme.
Bien sûr, c'est le wahhabisme. C'est une secte avec des pétrodollars derrière. Hein.
Mais on a ça. Ah oui. Ça, c'est un quartier populaire, la question de la laïcité.
Attention, attendez, vous parlez à tous.
C'est bourré de gamines de 12-13 ans qui sont habillées comme.
Oui.
Comme voilà. Donc l'amalgame, c'est pas juste quelque chose de théorique et intellectuel, ça correspond à la réalité.
Oui.
Ça correspond à la réalité.
Oui, mais moi, en fait.
Et l'islam traditionnel n'existe plus. Enfin, il existe, mais à l'état de vestige. Ah, je sais, c'est dérangeant de dire ça. C'est pas bien sûr, mais c'est la réalité.
Non, mais il y a un islam éclairé. Bon, en Tunisie, ils sont tous musulmans. Il y a personne qui dira non, je suis pas musulman, la plupart. Il y a aussi des femmes qui sont totalement libres et des hommes libres. Bah oui. Et même au Maroc, alors que l'islam, vraiment, c'est très sérieux. Non, mais il y a de la liberté. C'est des pays que je connais très bien. Les individus sont libres. Alors. Sur la place publique, ils n'iront pas boire du cognac, mais quand vous allez avec eux.
Alors, tu parles de cognac. En Kosovo, je peux vous dire, les amis français, là, prenez la parole, parce que l'année dernière, on est allé retourner au Kosovo, et on est allé au mosquée. Enfin, Lina, tu étais complètement. Enfin, voilà, Anne-Sophie, elle était en débardeur. Enfin, on est rentré comme ça dans les mosquées, et on était accueillis. D'ailleurs, j'ai posé la question à l'imam, j'ai dit. Est-ce que tu veux qu'elle, enfin, est-ce que vous voulez qu'elle mette un oui, je pose la question par respect. Pourquoi pas? Je pose cette question. Il m'a dit, Nixon, c'est insultant. Il m'a dit comme ça, c'est insultant. C'est quoi cette question? Et je me suis retrouvé con. Et j'ai posé cette question là parce que je veux de la France, je le dis. Hein. Mais c'est vrai. Et en fait, et c'est pour ça que moi j'en vis que quand même. Qu'on fasse cette séparation, ce qui est religion et l'intégrisme. Et ça, pour moi, et c'est à mon avis, hein, mais peut-être que je me trompe complètement, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, on va avoir beaucoup de problèmes.
Et c'est aux musulmans de le faire, ce travail-là, c'est pas à nous.
Et nous et eux, c'est qui? C'est tout le monde, en fait, quand j'en veux dire. Tout le monde. Pourquoi, par exemple, l'auteur n'est pas complètement chrétien, il n'est pas non plus musulman. Est-ce qu'il n'a pas le droit d'écrire? Moi, par exemple, je suis d'origine chrétienne, mais je peux vous assurer que j'ai vécu exactement la même vie que mes copains, qui étaient pratiquement tous de religion musulmane. On a vécu exactement la même chose, de la même façon. On vivait la même vie. Mon grand-père raisonnait exactement comme leur grand-père. Et donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai vécu d'une manière traditionnelle ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam dur. Mais je me trouve, enfin, ce qu'il disait tout à l'heure, ensemble, moi je me trouve très légitime aussi aujourd'hui, et j'ai envie que tout le monde en parle, pas que soi-disant les musulmans, tout le monde en fait. C'est un problème de nous tous, parce qu'il s'agit de notre vie, et notre vie, c'est vivre ensemble. Il me semble.
J'ai l'impression que, en fait, on hystérise la question religieuse, alors qu'en fait, c'est quand même. Le but, c'est que les femmes torchent les gosses et fassent des tâches domestiques. Le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'elles s'occupent des gosses et qu'elles fassent des tâches domestiques et que nous, on s'occupe, on gagne de l'argent, on est tâches domestiques. La religion n'est qu'un pis-aller pour permettre ça. Ça facilite la chose.
Oui, c'est que...
T'as une case, t'es une femme, Allah a dit, machin a dit, donc tu dois faire ça. Mais au bout du compte, elle existe même avec des cadres athées. Quand on voit les retraites, 42% de moins d'argent pour les retraites des femmes. 80% des femmes sont les plus pauvres dans le monde, 80%. Donc ça dépasse la religion, ce qui est intéressant. Parce qu'en fait, ce que la pièce ne montre pas du tout, c'est une femme avec, enfin un homme. Un homme avec un balai en train de faire le ménage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune productivité sociale dans la pièce. Tout flotte, on a l'impression qu'ils sont en vacances tout le temps. Il n'y a pas de tâches ménagères, il n'y a pas de tâches d'élevage, il n'y a pas ces 4h38 par jour en France. Hein, une femme consacre 4h38 entre le ménage, les tâches domestiques et les enfants. 4h38, tout confondu. Donc ce temps-là, qui évidemment pas le temps de travail, ça, c'est la discrimination, elle vient de là, on le sait sociologiquement, indépendamment des religions. La religion, c'est juste un moule institutionnel qui permet de ne pas remettre ça en question. C'est le couvercle sur la marmite. Mais la marmite, c'est d'abord, t'es une femme, donc dès qu'il y a un problème à la crèche avec le gosse, c'est la maman, c'est pas le papa, c'est la maman. Donc, on ne peut pas ne pas évoquer dans un débat Jackie au royaume des filles, qui est vraiment, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah bon, alors non, alors on l'évoque pas. Alors. Mais c'est vraiment le même parti pris, et c'est très intéressant de pouvoir le comparer. C'est le même parti pris. Des hommes portent le voile et sont soumis à une société matriarcale, avec viol, avec tous les thèmes sont là, et ils jouent pas au chier, c'est limite. Et ils ont parodié la religion, ils ont fait une parodie de religion. Dans cette pièce, Nino a essayé de faire une sorte de mixte des religions. Il y a du Amen chrétien, il y a du Ali machin, tout ça c'est mixté. Dans Jackie au Royaume des Filles, ils inventent une religion, la religion des chevalins. Il y a deux chevaux et on bénit les chevaux et on dit vive les chevalins, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le parti pris opposé. Mais c'est bien, parce que c'est la différence pour moi entre le théâtre et le cinéma. Au théâtre, on flotte dans l'intemporalité. Les jours, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, on ne sait pas s'il y a des tâches à faire, on ne sait pas quel est le travail de ces gens-là. Parce qu'il y a bien du travail, il faut bien manger. L'argent, par exemple, n'est jamais posé. Si à un moment, on achète à l'instance religieuse tous les péchés. C'était très drôle, cette séquence, magnifique. Donc, ça flotte dans une sorte de vacances éternelles, de loisirs éternels. Et dans ce loisir, il y en a qui sont exploités, mais même, on ne sait même pas à quoi, à part être des créatures sexuelles. Quelle est leur tâche quotidienne. Or, dans Jackie au Royaume des Filles, on a le côté plutôt social, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire la bouffe, il s'agit de dire « Salut ma petite femme, tu veux quelque chose ? Ah, tu rentres du travail ? Ah oui, ouais, c'est ça, allez, fais-moi la bouffe, machin. » Voilà, je ne vais pas spoiler le film. Si, je vais le spoiler. En fait, ils bouffent leur propre merde, c'est assez bien vu. La bouillie, la fameuse bouillie qui est sacrée. Mais c'est assez intéressant de voir que dans l'espace théâtral, ce qu'a fait Nino, c'est une sorte de suspension intemporelle. Ça pourrait se passer vraiment au 19e siècle, au 18e siècle, dans tout, en science-fiction, on pourrait être très bien en 2114, il n'y a aucun problème. Alors, donc suspension temporelle, et la productivité, c'est-à-dire le travail, notamment le travail des femmes, n'existe pas. Il n'y a pas de... c'est donc la religion est d'autant plus importante qu'elle donne des rôles, et c'est d'autant plus absurde qu'il ne s'agit pas de s'occuper des gosses, parce qu'on ne les voit pas s'occuper des gosses, ou de nettoyer la maison, ou de faire à manger. Le faire à manger n'existe pas. On ne les voit jamais en train d'éplucher des haricots. Les femmes, donc, on suspend tout. Tout est suspendu. La productivité féminine, et donc qui justifie un esclavage, c'est que c'est super utile d'avoir des femmes à la maison qui sont la nounou, l'assistante sociale, et même la psy du mec, en l'occurrence, la plupart du temps. La secrétaire. Tous les écrivains ont eu des femmes secrétaires qui s'occupaient de leur métier, par exemple. Alors que dans le cinéma, on voit au contraire toute l'organisation sociétale qui se met autour de cet esclavage des hommes. Et donc voilà. Et c'est la différence entre le cinéma. Je sais, il ne s'agit pas du tout de comparer. Les deux sont complémentaires. Et je pense que c'est très intéressant dans un débat de pouvoir les mettre en comparaison et en complémentarité.
Juste pour compléter un petit peu par rapport à ce que tu disais par rapport au temps et les allers-retours entre les hommes et les femmes et le passé, le futur. Peut-être que vous avez senti un petit peu, mais vous avez peut-être pas vu ou entendu, en tout cas moi j'avais pas capté tout de suite, c'est que en fait trois quarts du texte, il faut savoir, c'est que ça ne fait que aller revenir, c'est à dire que il y a plusieurs scènes, on commence par le début et ensuite on reprend depuis la fin et on remonte le temps. Je sais pas si peut-être parce que tu te parles tout à l'heure, le texte il y a pas, ça revient rien machin. En fait, et il y a plusieurs scènes qui sont redites et rejouées à l'envers. C'est-à-dire que ça, on les voit de temps en temps, ça défile, et ensuite on reprend la scène depuis la fin plus tard. Vous n'avez peut-être pas vu, mais en tout cas il y a sans arrêt comme ça, trois quarts du texte est comme ça, en fait, fait de aller venir en fait. Et pour moi c'est comme un, tu parlais de symbole tout à l'heure, c'est comme un symbole qu'on n'a jamais fini avec ces, bon, la question homme-femme, le droit, de l'égalité, et aussi cette histoire de l'intégrisme religieux quand même, qu'on n'a jamais fini, et ça revient sans arrêt, et ça voyage, ça dépend de l'époque et du temps, mais ça ne fera que voyager, et c'est à nous d'être vigilants, enfin je crois.
Mais le point commun entre le film et cette pièce, c'est justement que la religion est omniprésente, et c'est qu'en fait, elle n'est qu'une armature mentale pour qu'on ne puisse pas sortir du système, penser ailleurs, une sorte de ghetto mental qui fait qu'on ne peut pas interroger la pertinence des stéréotypes, des rôles, etc. Et c'est intéressant de voir que quand on veut inverser les rôles, il faut passer par la case religieuse qui est vraiment le paroxysme de l'institutionnalisation des choses. Mais ce que la pièce dénonce, et ce qui est à mon avis bien, c'est tout ce qui est en dehors du religieux. Quand tu sors le couteau, c'est plus la religion. C'est la force brute, terrestre, physique. T'as la légitimité de pouvoir sortir le couteau et de menacer. Mais c'est en dehors de la case religieuse. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la religion finalement fait qu'on est dans notre bon droit en étant celui qui exploite et celui qui est exploité, puisqu'on a les vertus du ciel qui sont de notre côté. Mais au bout du compte, ça se traduit, je veux... le cunnilingus, c'est l'arme du viol suprême dans cette pièce, on l'avait vu. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment très intéressant. Non, mais c'est une vraie question. Parce que dans Jackie, au royaume des filles, on a aussi cette question, comment on viole un homme? C'est une vraie question. Comment violer un homme? Il y a des hommes, hein, je crois que c'est... Oui, 4%. 4% des hommes sont tenus violés par une femme. Donc, mais je trouve le parti pris de mise en scène excellent, quoi. Le cunnilingus porté, on a vu ça aussi. Ça, c'était vraiment... Mais c'est magique, quoi. C'est non, vraiment très, très bien. Bon, écoutez, c'était vraiment enthousiasmant. Je pense que cette pièce mérite vraiment de circuler, de faire débat. On a envie d'avoir des jeunes qui voient cette pièce, d'aller dans les écoles. Je pense que c'est le genre de pièce dans une école. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du tout. On sait bien que c'est une religion inventée, donc à partir de ce moment-là... Alors, dans Jackie, au Royaume des Filles, ils ont pris un voile rouge et stylisé autrement que le hijab ou le niqab. Peut-être que c'est une astuce comme ça qu'il faudrait pour éviter le côté hyper, je dirais, référencié. Si ça vous fait peur, sinon vous pouvez aussi l'assumer parfaitement, mais je crois que ça mérite vraiment de toucher un jeune public notamment parce que c'est très lisible, c'est une pièce profonde et très lisible. En ce sens, ça nous invite à ce message, c'est que question féminisme, faut pas laisser 50% des êtres humains faire le boulot, quoi. Ça concerne tout le monde et merci à tous en tout cas, merci de votre présence, merci beaucoup. J'ai 3 exemplaires pour ceux qui veulent approfondir la réflexion.